Bonjour, bienvenue sur Lilith, Martine et les autres. Voilà pour une émission aujourd'hui qu'on va consacrer essentiellement à l'IVG en fait, et puis on vous fera aussi plusieurs rubriques. Puis pour commencer peut-être une petite présentation, enfin un petit rapport de ce qui s'est fait à la manif du 17 octobre à Paris, qu'il y a une dizaine de jours, puisqu'il y avait une manif qu'on a annoncée à plusieurs reprises, dont le mot d'ordre était « Ensemble pour une réelle égalité entre les hommes et les femmes », réelle égalité femmes-hommes, qui était à l'appel de pas mal d'associations féministes, syndicats, partis de gauche. Au final, il y a 3000 personnes qui ont participé à cette manifestation. Voilà, des personnalités publiques qui ont participé, notamment le PS, le PC, le parti de gauche, le NPA, des syndicalistes comme la CGT ou la FSU. C'était a priori très très axé sur égalité hommes-femmes, discrimination au travail. À la fois, bon, ça nous paraissait important d'en parler, puis on peut peut-être en faire un petit point, une petite analyse critique.
Donc, quand moi j'étais dans le cadre du planning, qu'on a vu arriver au printemps les premiers appels pour cette manif à l'automne, moi je dirais que au début j'étais plutôt contente parce que je me suis dit, oh, on va peut-être rééditer novembre 95, faire une immense manif, où effectivement on ne sera pas forcément d'accord, mais ça c'est pas grave, je dirais même c'est mieux si tout le monde n'est pas d'accord. Mais je dois avouer, dans les premiers appels, là, qui venaient donc des deux assos qui ont lancé ça, qui sont le CNDF et Femmes Solidaires, Centre National des Droits des Femmes, sachant qu'en plus le Femmes Solidaires est membre du CNDF, on n'a toujours pas compris pourquoi du coup il y avait la double signature. Il y avait quand même des trucs qui me gênaient un peu. Il y avait quand même en toutes lettres, dans le premier appel, qui d'ailleurs par la suite a disparu, qui n'a pas été l'appel diffusé nationalement, c'est écrit quand même qu'on avait en France, alors le « on », je suppose que c'était le gouvernement, sacrifié l'égalité homme-femme à la diversité. Alors ça, je suis désolé, mais c'est un peu grave. Parce qu'on sait très bien en France ce que ça veut dire par derrière. Ça voulait dire, en gros, tout ce qui est reconnaissance de culture non occidentale est sexiste, donc à combattre. Bon, dès ce moment-là, moi, j'ai effectivement un peu pris la décision d'être un peu opposante à l'idée d'y aller. Et la manifestation s'est organisée, hein, avec les soutiens ordinaires, beaucoup la gauche classique. Ce qui me semble, c'est que voilà, il n'y avait pas dans la manif, mais j'ai l'impression que c'était pas le but. J'ai l'impression que le but de la manif, alors moi je dis ça sur ma propre responsabilité, je suis peut-être un peu parano, hein, c'est de prendre date pour la future loi, que d'ailleurs moi j'appelle aussi de mes voeux, sur les violences faites aux femmes, le cadre que la droite refuse obstinément de mettre en discussion, qui à mon avis sera mis en discussion le jour où il y aura un nouveau gouvernement, on va dire socialiste, qui est une loi absolument nécessaire, sauf qu'il faut savoir aussi ce qu'il y aura dans cette loi, qui sera pas, si on dit que c'est une loi cadre, ce sera une loi assez large, hein, avec beaucoup d'articles, et il y a un risque. Quand on voit certains des mots d'ordre, hein, qui ont été... Parce que bon, égalité homme-femme, ça mange pas de pain. Je veux dire, c'est vraiment le mot d'ordre de base que personne, à part peut-être quelques tondus, va contester. Mais par exemple, bon, c'est clairement un mot d'ordre... Il y avait quand même toujours, dans les derniers appels, un mot d'ordre de la stigmatisation de la prostitution, par exemple. Très nettement. Pour moi, il y a un risque qu'il y ait... C'est même pas un risque, il y aura un lobbying d'un certain nombre d'associations féministes que moi je considère comme réactionnaires sur certains points, qui cèdent de la notion de dignité, qui est un truc qu'il faudra un jour en causer dans une émission, je pense, tout entière, qui en France a un passé législatif très lourd, pour, comment dire, normaliser et indexer sur certains intérêts les futures lois par rapport. Et c'est très dommage parce que ces lois, elles sont nécessaires. Voilà après ce que je pense de l'initiative autour de la manif du 17 octobre.
Ben merci, on va enchaîner avec Stéréo Total, Baby Revolution.
Revolution is my boyfriend. The revolution is
Sur Radio Lilith. Donc maintenant, on voulait refaire une émission en partie consacrée à l'IVG. C'est un thème qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, mais ça nous paraissait important de faire un point sur l'actualité de l'IVG à Lyon, en France et un peu à l'international aussi. Donc Plume, si tu peux faire un état des lieux, un rendu d'un récit de la mobilisation sur le TL2.
Alors voilà, je ne sais pas si vous aviez suivi cette affaire qui quand même a duré au moins pendant toute une année. Pour rafraîchir la mémoire, tout simplement, on apprend qu'il y a à peu près un an que les Hospices Civils de Lyon, les HCL, qui gèrent donc la plus grande partie des hôpitaux publics de Lyon, envisagent purement et simplement de fermer, mais de vendre en fait les bâtiments de tel lieu. Tout simplement, on pourra en faire, après c'est même secondaire, c'est même pas notre sujet de ce qu'on va en faire. Vous pensez bien que c'est pas pour en faire quelque chose de très intéressant, mais bon. L'important, c'est que l'Hôtel-Dieu, déjà historiquement, c'est à Lyon le berceau, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais de la médecine sociale et de l'orthogénie. C'est-à-dire l'orthogénie, tout ce qui touche à la naissance ou à la non-naissance, qui est tout au moins aussi important, qui a là-bas donc des services et une équipe qui fonctionne depuis des années, qui ont qui d'une part ont une expérience donc absolument irremplaçable en la matière, qui d'autre part sont en plein centre-ville, donc facilement on peut facilement y arriver de partout, dans un endroit relativement anonyme, et qui assure un tiers des IVG faites à Lyon, soit à peu près 2000 sur 6000 par an. Donc, en gros, on se retrouvait face à une situation où on n'avait aucune garantie que quoi que ce soit de tout ça allait être maintenu. C'est-à-dire qu'on pouvait même très bien imaginer la suppression pure et simple de ce centre d'orthogénie, la suppression pure et simple d'un tiers des capacités d'IVG dans le public sur Lyon. Ça paraissait tout à fait dans les corps de ces gens qui sont à la mairie, qui sont socialistes, etc. Hein, parce que la mairie a beaucoup de parts, si j'ose dire, dans les HCL. Ce qui d'ailleurs permet moi comme je dis toujours, de relativiser, il y a toujours les 30 bigotes qui prient, et puis par derrière, on est dans une société qui n'aime pas l'IVG, c'est très clair, et ça se ressent, parce que quand on n'aime pas l'IVG, je veux dire, c'est la dernière chose qui sera défendue, et c'est la première chose qui sera attaquée, c'est les droits des nanas, c'est l'IVG, etc., y compris par des gens qui se prétendent de gauche, laïcs, etc. Du coup, mobilisation. Et alors, mobilisation, du coup, s'est aperçu aussi que voilà, c'est le genre de choses qui n'intéressent pas donc ça les médias. Tout simplement, un peu bouf, qui se font avorter, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer ? Non, mais je veux dire, au début, c'était un peu ça. Même pour arriver à ce que les médias relayent bien, il a fallu tout un travail. Il faut avouer, ça a été pendant un an, beaucoup un travail de lobbying, c'est-à-dire rassembler des alliés. Donc le personnel de l'Hôtel-Dieu s'est constitué en comité de défense, donc a été évidemment rejoint très rapidement par le planning familial, un certain nombre de syndicats, quelques partis politiques, dont les Verts, mais pas non plus des tonnes de partis politiques, où en gros, je dirais, guerre d'usure et guerre de lobbying pendant un an pour, en fait, de toute manière, on a compris qu'on ne sauverait pas l'Hôtel-Dieu en tant qu'endroit. Donc le grand enjeu est devenu, il faut sauver l'équipe, c'est-à-dire l'unité humaine de l'équipe, parce que je veux dire, c'est une unité humaine entre les personnes et c'est aussi une unité humaine vers les, bon, je veux dire les patientes, hein, c'est pas le mot qui convient, mais là je n'ai pas le bon mot dans la tête, qui est quand même super important et qui est très mal d'ailleurs. On a des retours maintenant des nouveaux pôles d'orthogénie là dans les grands centres où côté humain c'est le désastre. D'ailleurs, on n'y est même pas suivi par les mêmes personnes sur la totalité de l'acte. Et du coup, l'objectif, c'était de sauver ce qu'on appelle l'équipe, le plateau, l'expérience. Et ben rien que ça, c'était pas évident. Il a fallu plusieurs mois de négociations et de pression. Hein. Il y a eu un minimum quand même de mobilisation, mais ça n'a jamais fait un grand bruit. Pour obtenir ce qui a été obtenu, qui était la moins mauvaise des solutions, c'est-à-dire en fait le 5 octobre au conseil d'administration donc des HCL a été retenue la solution, l'issue du transfert intégral de l'équipe à Édouard Herriot. C'est-à-dire bon, aussi l'hôpital le moins mal placé au point de vue des transports, parce qu'on avait parlé un moment de Lyon Sud, qui est quand même un endroit super difficile à atteindre quand on n'a pas de bagnole. Donc voilà, cela a été obtenu. On a obtenu un engagement que la capacité, ça c'était très important aussi, la capacité en termes de nombre d'IVG serait maintenue. Par contre, on a, je veux dire, il n'y a pas du tout de promesse de l'augmenter, mais qu'elle serait maintenue. À l'air de rien, ça aussi, c'est déjà pas mal parce que c'était pas du tout gagné. Par contre, on n'a pas tout obtenu. Il faut savoir que les 10-12 semaines de grossesse, 12-14 semaines d'aménorrhée ne sont toujours pas prises en charge dans le nouveau service qui ouvrira donc à Édouard Herriot dans le courant 2010. On ne sait toujours pas. On n'a toujours aucune sécurité, certitude, voilà. Merci. Par rapport à ça, on est en train aussi de se battre pour que le centre de planification qui va avec, c'est-à-dire là où les conseillères conjugales reçoivent les nanas, suivent le centre d'orthogénie, parce que ça non plus, on n'a pas eu de réponse. Et que ça serait le minimum que le centre de planification suive. Je veux dire, ça n'aurait absolument pas de sens que le centre de planification soit ailleurs. Donc voilà, c'est une histoire qui s'est...
Donc concrètement, est-ce que tu peux réexpliquer la différence entre... qu'est-ce que c'est que le centre de planification, peut-être pour... centre orthogénique, centre de planification, pourquoi est-ce qu'il serait important que ça suive ?
Alors, un centre de planification, ça, c'est quelque chose qui. Une notion qui date de l'époque de la loi Veil, puisque vous savez que la loi de 75 et les lois qui ont suivi, formellement, rendent un entretien, voire plusieurs entretiens obligatoires avant une IVG. Avec des conseillères conjugales et familiales, qui est un terme qu'on donne, c'est le terme consacré, le terme du diplôme, le terme de la fonction. Évidemment, ça ne se limite pas à ça, parce que le centre de planification, c'est tout simplement un endroit où les femmes peuvent venir parler, non seulement d'avortement, mais de tout ce qui les touche à des nanas qui sont, formées à entendre, et à aider, voire à donner des pistes, etc. Alors, les centres de planification sont gérés soit par le planning familial, soit par les départements qui sont en charge donc de la santé. Il y en a, je ne pourrais pas vous dire, il y en a un très grand nombre en France. Dans un certain nombre de cas, ils ne sont pas couplés à des centres d'orthogénie qui sont forcément d'ailleurs moins nombreux que les centres de planification. Dans d'autres cas, ils le sont, ce qui était le cas à l'Hôtel Dieu, où il y avait vraiment, il y avait aussi le CIDAG, centre de test anonyme et gratuit pour les IST, et que le fait que tout ça soit rassemblé était super important, et ce qu'il faut, c'est que tout ça continue à être rassemblé. Bon, centre orthogénie, comme je l'ai dit au début, donc c'est tout ce qui concerne la naissance et la non-naissance, surtout la non-naissance en ce qui nous concerne. Il faut savoir aussi que les CIVG, c'est-à-dire les centres d'interruption volontaire de grossesse, petit à petit sont avalés par des centres d'orthogénie plus larges qui, dans la nouvelle logique, intègrent la naissance, etc. Et que c'est vraiment un gros problème à deux points de vue. C'est-à-dire d'une part pour leur autonomie matérielle, c'est-à-dire c'est jamais bon signe quand on est avalé à l'intérieur d'une structure plus grande, et que par ailleurs, c'est pas innocent. Je veux dire, ce qui est valorisé, c'est pas la non-naissance, c'est la naissance. Je veux dire, on avait déjà ce problème, par exemple, à la campagne. Moi, j'ai été longtemps dans un planning de campagne où là, il y avait de toute façon vraiment pas les moyens d'avoir des CIVG indépendants, où du coup, les nanas allaient avorter dans les maternités. où en fait, en gros, les murs étaient couverts de photos de bébés hilares. Vous voyez un peu l'atmosphère que ça peut donner. Et en fait, maintenant, dans les grands centres, on en arrive à ça, avec ce qu'on appelle les pôles mère-enfant, les pôles famille-enfant, ça change de nom, et il y en aura un lien aussi, apparemment, où tout est rassemblé, et où clairement, l'IVG devient le parent pauvre. De toute façon, l'IVG est, en France, un acte dévalorisé. C'est-à-dire, les médecins, indépendamment du fait que c'est un acte dévalorisé moralement, c'est-à-dire considéré comme néfaste, et c'est en plus un acte dévalorisé au point de vue de combien le médecin est payé, par exemple. C'est même à peine considéré comme un acte médical. C'est même une lutte plus large qu'une lutte d'endroit en endroit qui va falloir continuer à mener pour les... Voilà, pour que l'idéal, ce serait effectivement de réobtenir l'autonomie de tous les CIVG en France. Hein. Après, c'est pas gagné. Hein. On prend pas, il faut avouer qu'actuellement, on ne prend pas ce chemin. Mais que c'est pas pour autant que ça ne doit pas être le but.
Bah peut-être justement à ce sujet.
Pour faire un petit état des lieux de l'IVG en France et de la situation, en fait, tu as déjà dit plein de choses, mais c'est sûr que l'hôpital public est en train d'être démantelé le plus possible et que l'IVG, c'est les premiers, les centres de planification et d'IVG sont les premiers à en prendre un coup. Et quelques chiffres comme ça pour rappeler, pour redonner l'alerte, parce que c'est de plus en plus catastrophique. En ce moment, les délais d'attente sont de minimum 3 semaines pour avorter. Donc 3 semaines, c'est quand même beaucoup, sachant que pour avorter, il faut avorter avant 10-12 semaines. Quoi. Que du coup, plus de la moitié des IVG sont réalisées dans le secteur privé. Le secteur privé, du coup, qui ne respecte pas toujours les tarifs, qui prennent la liberté de refuser les mineurs ou les femmes sans papiers. Du coup, rien qu'en Ile-de-France, là, cette année, depuis mai 2009, il y a 3 structures IVG qui ont été fermées et il y a une 4e structure qui va fermer. Et ça représente environ un quart des avortements en Ile-de-France. Donc la question, ça se pose de où vont aller ces 2800 personnes qui vont avorter. Et ben, la réponse du public, c'est que ce sera transféré sur les autres hôpitaux, mais ce sera toujours moins de monde qui travaillera sur ces IVG. Et puis que, comme tu disais, Plume, tout à l'heure, sur que ce sera, ça supprime tout ce qui est autonome et toutes les équipes militantes, et que ça les noie du coup dans les centres gynécologie et obstétrique. Et que du coup, c'est relégué au deuxième plan. Enfin, c'est vraiment pas faire une IVG pour un médecin, pour un gynéco de nos jours, c'est vraiment pas valorisant. Et du coup, c'est de plus en plus relégué au deuxième plan. Donc, on nous dit que ça reste un droit, etc., mais ça recule dans les faits. Pour dire que ça reste une décision avant tout politique, parce que depuis 87, il y a eu la moitié des maternités et dont les centres d'avortement qui ont été fermés depuis 87, et qu'il y a toujours autant d'IVG en France. Les chiffres sont clairs. On voulait faire un petit point sur l'Espagne aussi, et sur la nouvelle réforme de l'IVG en Espagne, et qu'est-ce que ça entraîne en fait, et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que récemment, il y a une nouvelle réforme qui a été mise en place en Espagne et qui devrait passer avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Jusque-là, l'avortement en Espagne était juste dépénalisé. Et en fait, avant, on pratiquait des avortements qu'en cas de viol, de raisons de santé ou de difficultés difficultés économiques plutôt. Par contre, cet avortement, on pouvait le pratiquer jusqu'à 22 semaines, 24 semaines d'aménorrhée. Là, on passe à une légalisation qui ressemble un peu à la situation en France, plus ou moins. Donc on passe à 12 semaines, donc au nom du droit inaliénable des femmes à décider de leur maternité. Et aussi, on passe au fait que les mineurs de 16-17 ans pourront avorter sans autorisation parentale. Donc l'IVG restera autorisé jusqu'à 22 semaines, seulement en cas de risque pour la vie et la santé de la mère ou de graves anomalies du fœtus. Le truc, c'est que donc ça a l'air d'une avancée comme ça, et sûrement que ça l'aide d'un certain point de vue. Et en même temps, jusque-là, l'absence d'une loi claire, le fait que ce soit pas vraiment une loi non plus, faisait que la situation était très souple et que du coup, notamment pour les Françaises, il y avait la moitié des Françaises, enfin je dis la moitié, je connais pas vraiment les chiffres, mais les Françaises qui souhaitaient avorter hors délai, donc au-delà de 12 semaines, allaient en Hollande ou en Espagne. Et que si là maintenant ça passe à à une situation comme en France. Du coup, l'Espagne n'est plus un pays qui va pouvoir accueillir ces femmes-là qui sont hors délai, et que du coup, elles vont aller rediriger vers la Hollande, sauf qu'à chaque fois qu'elles vont avorter, qu'une femme va avorter dans un pays étranger parce qu'elle est hors délai, elle y va à ses frais, que ça coûte environ 800 euros un avortement à l'étranger, et que les femmes, du coup, qui sont dans la moitié de la France la plus éloignée de Hollande, bah, ça va être encore plus cher. Puis ça va faire aussi peut-être un surplus pour la Hollande. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer et quelles vont être les conséquences encore, mais il faut dire, il y a 5000 Françaises qui avortent en Hollande ou en Espagne chaque année. Voilà pour la situation en Espagne. Du coup, Tatiana, tu voulais nous parler de la manif qui a eu lieu justement en réaction à cette réforme le 17 octobre aussi.
Oui, décidément, le 17 octobre, il y avait beaucoup de choses, indépendamment de la commémoration du 17 octobre 61, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a eu une grosse mobilisation en Espagne. Alors, bon, les organisateurs annoncent un chiffre d'un million de personnes. L'AFP, qui était présente, parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de monde. Après, c'est la frange extrêmement réactionnaire de l'Espagne, puisque c'est l'Église, beaucoup, qui lutte contre ce projet de loi, soutenu cependant quand même par le Parti Populaire. Notamment, on a vu défiler à ce moment-là, pendant la manifestation, José María Aznar, qui est donc l'ancien Premier ministre ou chef du gouvernement, je ne sais plus quel est le statut, chef du gouvernement d'Espagne, ainsi que des personnalités politiques assez importantes. Donc c'est une manifestation qui a... Bon, je pense que pour eux, c'est un objectif qui a été plutôt rempli, de faire une grosse manifestation contre la loi dont tu parlais. Voilà, sachant qu'a priori, ça, même sur l'opinion publique, ça a plutôt un effet, puisque, alors c'est les sondages, hein, prenons-les avec toujours un peu de mesure, mais alors que l'année dernière, il y a un an, les 60% de l'opinion publique étaient plutôt favorables à une loi qui libéralise l'avortement, enfin qui soit claire, aujourd'hui, ils ne sont plus que 44% à y être favorables. Donc on verra quelle est la réaction du gouvernement suite à cette manifestation, puisque a priori, pour l'instant, la loi n'a pas été adoptée. Mais c'est vrai que voilà, ça prouve, en tout cas ça montre à quel point l'avortement est quelque chose qui est loin d'être acquis, y compris dans des pays finalement où la pratique était assez libérale. Voilà, et qu'au contraire, c'est souvent aussi un enjeu de focalisation des forces réactionnaires, que ce soit aussi bien l'Église que de la droite. Et puis bon, pour terminer un peu sur ce point sur l'IVG, peut-être un petit rappel en fait de ce que la situation en Union européenne. Pour refaire un point, c'est vrai que l'Espagne serait en passe d'avoir la même loi que la France. C'est le cas dans une grosse majorité des 27 pays de l'Union européenne. Cela dit, en Irlande et à Malte, ça reste totalement illégal et autorisé uniquement s'il permet de sauver la vie d'une femme. Et dans plusieurs pays, il est autorisé uniquement en cas de viol ou si la santé de la femme est menacée. Donc c'est vrai que c'est souvent assez restrictif, et encore maintenant, on voit bien que c'est un droit qui est assez menacé, sur lequel, pour le coup, il n'y a pas une avancée au niveau de l'Union européenne. Dans ces cas-là, on ne cherche pas du tout à faire une uniformisation au niveau européen. Et ça veut dire aussi qu'on suivra de près les mobilisations qui devraient venir un jour, puisque notamment en France, sur la situation dont on faisait le point tout à l'heure, dont on ne manquera pas de vous parler sur les ondes de Lilith.
But illegitimately to a heart most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was, sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Yeah.
Tattoos of tears.
His greatest love was executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and holy ones.
Tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears.
Sur oui. Radio Canus en 2.2 FM, Radio Lilith, et c'était Coco Rosie.
Oui, Coco Rosie avec Anthony and the Johnston qui chantait Beautiful Boys. C'était pas très drôle comme chanson. Je voulais vous parler d'une femme qui vient de mourir, et c'était une grande dame du documentaire qui s'appelait Carole Roussopoulos. Elle est morte le 22 octobre à 64 ans. C'est une femme qui a commencé à filmer en fait les luttes en 68. Avec une des premières caméras qu'on pouvait s'acheter comme ça pour les amateurs, quoi. Elle a filmé les luttes, notamment, enfin beaucoup de luttes, mais notamment le mouvement de libération des femmes et aussi le front homosexuel d'Action révolutionnaire. Et puis en général, pendant toute sa vie, elle a lutté beaucoup pour tous les opprimés. Elle a filmé les conflits ouvriers, les luttes anti-impérialistes, toutes les luttes féministes, avortement, contraception, etc. Ainsi que la mobilisation des prostituées à Lyon en 75. Donc elle a son actif énormément de films documentaires depuis 68. Pour elle, je la cite, citation, deux points. « Ma caméra est là pour ceux qui ont juste le droit de la boucler. » Et autre citation, deux points. La vidéo portable permettait de donner la parole aux gens directement concernés, qui n'étaient donc pas obligés de passer à la moulinette des journalistes et des médias, et qui pouvaient faire leur propre information. Quoi dire d'autre sur elle que elle a fondé le centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 82, où tous ses films sont disponibles, et surtout il y a un DVD qui va sortir bientôt, je crois, courant de l'année 2010, avec beaucoup de ses films. Donc à voir absolument, enfin je sais pas, j'ai envie de dire à voir absolument. Pour citer quelques-uns de ses films comme ça, les titres, elle a réalisé un film sur l'histoire du mouvement de libération des femmes qui s'appelle « Debout ». Elle a réalisé aussi, un de ses premiers films, c'est elle était très amie avec Jean Genet, et elle a fait parler Jean Genet autour de Angela Davis. Donc il y a un film qui s'appelle Genet parle d'Angela Davis. Elle a fait un film, beaucoup de films sur les viols et le viol conjugal, notamment Le Viol, de points, Anne, Corinne, Annie, Brigitte, Josiane, Monique et les autres. Un film aussi sur les luttes de la contraception qui s'appelle « Y'a qu'à pas baiser ». Et je l'ai vu et c'est tiré d'une phrase d'une dame dans la rue qui est interrogée sur la contraception et elle dit « bah y'a qu'à pas baiser ». Sinon, elle a fait un film aussi qui est assez génial à partir du Scoum Manifesto de Valérie Solanas. Oui, en fait, c'est comme un film performance avec Delphine Seyrig, qui était aussi une alliée de Carole Roussopoulos et une grande comédienne, décédée maintenant il y a quelques années. Et en fait, elle, voilà, c'est comme un film où elle redise, elle dit à voix haute le Scoum Manifesto de Valérie Solanas, qui est un texte très fort dans l'histoire du féminisme. Voilà, en gros, sur Carole Roussopoulos. Ben, je te passe la parole, Plume, pour parler d'un bouquin dont tu avais envie de parler.
Oui, on s'était dit là, il y a quelques temps que on pourrait parler de bouquins qu'on aime bien. Bon, vous ne me connaissez pas, hein, moi je suis jamais excessivement sexy, comme vous avez remarqué. Et voilà, j'ai envie de vous parler d'un bouquin que j'aime énormément, que je relis avec obsession et obstination depuis quelques années, qui est pas un roman, qui est... Comment on pourrait dire, moi j'appellerais ça quasiment un manuel. Tout simplement, un manuel de survie. Ça s'appelle « Le harcèlement moral ». Ça a été écrit par Marie-France Irigoyenne, qui n'est pas une inconnue. Ça a l'immense avantage de se trouver facilement et dans des éditions faciles à trouver et à des prix abordables, ce qui n'est pas le cas de tous les bouquins aujourd'hui. Et voilà, alors je ne vais pas vous en lire des extraits, parce que comme je vous dis, c'est pas un livre de littérature. Hein. Que je n'ai pas trouvé un endroit que j'aurais eu plus envie de lire qu'un autre. Je vais parler de quelques aspects de ce dont parle ce bouquin. Parce que, voilà, il parle d'une forme d'abus et d'agression qui a longtemps été complètement invisibilisée, parce que ce n'était pas une forme physique, au sens classique qu'on donne à physique, c'est-à-dire les coups dans la gueule, le viol, etc., d'abus et d'agression, et qui est une forme qui est extrêmement utilisée par les dominants, et même par les dominantes d'ailleurs de tout poil, dans le cadre familial, mais pas que. Marie-France Guyenne a aussi beaucoup travaillé sur le harcèlement moral au travail. C'est aussi valable dans les milieux sociaux les plus divers. Je trouve vraiment très intéressant son approche, parce que, bien sûr, il y a une approche psychologique, mais c'est quand même une approche d'analyse, quoi. Et moi, j'ai jamais été très psy, j'ai toujours été plutôt analyse, mais je trouve dans certains cas la psy... Alors voilà, je vais parler de quelques aspects qui sont abordés dans ce bouquin. Un des aspects de ces agressions, c'est la dévalorisation systématique. Et alors ça, c'est un truc qui est très important dans le monde actuel, où il est particulièrement justement important de se sentir reconnu et, j'allais dire par conséquent, je ne sais pas si c'est juste de dire par conséquent, valorisé, et qu'une arme extrêmement efficace pour détruire quelqu'un, quelqu'une, et ben c'est tout simplement de lui couper le robinet de la reconnaissance. Ça veut dire même pas forcément l'insulter à longueur de journée. Ça peut être d'ailleurs le cas. Ça peut être tout simplement refuser absolument pendant des mois, des années, tout signe de reconnaissance que cette personne existe bien, que c'est une personne autonome, que ce qu'elle fait, même pas seulement est bien, mais existe. Et que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement fréquemment dans des trucs qui sont rapportés. Moi, je m'occupe de violence depuis des années, principalement par des nanas par rapport à des mecs. Hein. Ça, c'est... c'est pas une, malheureusement. Donc voilà, la dévalorisation systématique. Mais il y a aussi, et ça c'est très intéressant, d'autres aspects qui sont abordés par Irigoyenne. Il faut savoir que le sous-titre de ce livre, c'est « La violence perverse au quotidien ». Alors à certains moments, effectivement, Irigoyenne part dans des analyses de la personne agresseuse en tant que personne perverse. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le caractère pervers de cette forme d'agression. C'est-à-dire...
Tu peux te poser une question ? Est-ce qu'elle parle juste des relations de couple ou elle parle de tout type de relations, en fait ?
Non, justement, ce qui est très bien, elle parle d'abord des relations de travail, après des relations de couple, et elle laisse largement entendre, et ça, c'est un travail d'ailleurs qui sera à faire, que tous les milieux sociaux et toutes les formes de relations où il y a au bout d'un moment une interdépendance peuvent donner asile à ce genre de violence.
D'accord.
L'histoire de la perversité de ce genre d'agression, c'est en fait au sens où elles sont absolument insaisissables. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen à un moment, notamment pour là où les personnes agressées, de mettre un doigt dessus, c'est là. C'est parce qu'elle se base sans arrêt sur la destruction de la réalité, sur la négation de la réalité, sur le mensonge, et notamment quelque chose que j'ai vécu, et pour l'avoir vécu, je peux vous dire, c'est absolument destructeur. C'est ce qu'elle appelle les messages paradoxaux. C'est-à-dire que, par exemple, oralement, je vais prendre un exemple que je connais très bien. Une personne va vous dire et vous répéter, notamment à chaque fois qu'il y a un début de conflit, « Mais tu es la personne qui compte le plus pour toi au monde. » Et que dans la totalité des signes qu'elle va vous envoyer, muet, ce sera exactement l'inverse. Il n'y a pas meilleur moyen pour rendre quelqu'un cinglé. Parce que ça détruit, certes, il y a un langage, mais aucune réalité qui va avec. Et du coup, il n'y a plus moyen de se baser sur quelque chose. Tous les référents, une grande partie des référents de la vie...
En fait, il y a deux langages même. Il y a deux langages qui vont l'un contre l'autre, qui sont paradoxaux.
Sauf qu'un des deux langages est impossible à... Il est très difficile ou impossible à toucher, parce que c'est justement le langage muet, qui est beaucoup plus efficace que le langage oral. Mais le langage oral a son importance en tant que témoignage, dans la manière dont on fonctionne. Donc au bout d'un moment, on ne sait plus où on est. Et ça, c'est extrêmement... ça détruit la notion de vérité, et ça, de réalité. Et ça, il y a un seul moyen de s'arracher de ça, en fait, mais qui coûte extrêmement cher, c'est d'accepter que ce qui est dit est faux. Mais je veux dire, c'est quelque chose de horriblement dur, notamment dans une relation affective, de se dire que ce que vous dit la personne en face est un mensonge, parce que ça a l'air tellement vrai. Elle a l'air d'ailleurs tellement persuadée de ce qu'elle dit, qu'au bout d'un moment, on se dit « mais c'est moi qui déraille, quoi ».
Quand tu parles de langage muet, quand elle parle de langage muet, elle donne des exemples précis ou
Eh bien, le fait Oui, je pense qu'elle donne des exemples précis, je ne saurais pas les retrouver là. Mais ce qui, par exemple, ce que je parlais de la dévalorisation dans tous les rapports quotidiens, par exemple. Le fait de maltraiter tout simplement la personne, de renvoyer sans arrêt quelque chose de négatif.
De jamais avoir un geste d'affection, voilà, puis après dire t'es la personne qui peut
aussi aller d'ailleurs jusqu'à s'en prendre à ses objets, s'en prendre à ses travaux, etc. Hein, voilà, d'habitude, j'aime pas utiliser le mot pervers, mais là, je l'utilise parce que, au sens vraiment où c'est tordu. C'est vraiment tordu. Il y a une chose aussi qui apparaît bien dans Rigoyenne. C'est le problème que, d'ailleurs, je crois que j'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus si c'était là, de la notion de violence. Pourquoi ? Parce que la notion de violence veut dire action, j'allais dire, qui rentre dans l'autre. Or, il y a un petit problème, c'est que ce que montre Aimé Rigoyenne, c'est que les personnes en position de dominance dans ce genre de relation, on a tout à fait l'impression qu'elles ne font rien, vu de l'extérieur. On a tout à fait l'impression qu'elles n'ont pas d'action particulière, elles ne tapent pas sur l'autre, etc. Et ce qui se passe, c'est que si l'autre pète les plombs, c'est elle qui est violente. D'où le problème d'utiliser la notion de violence pour ce genre de choses. Moi, j'utilise de plus en plus la notion d'abus et d'agression, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que la violence peut être légitime, contrairement à l'abus et l'agression. Parce que la violence peut être une réaction à une agression. Donc voilà, allez, je vais vous laisser avec ce bouquin un peu tristounet, mais quand même, je vous invite à le lire, parce que c'est un manuel de survie.
Can't we just forget the pain? It's been so long since you came. I'm so tired of loneliness. It's been so long since happiness. So long, 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 so long,
C'était Mansfield Tia Solong. Et c'est l'album Seul au bout de 23 secondes. Et ce petit groupe de meufs passe en concert à la Bobine à Grenoble le 6 novembre. Voilà, c'est toujours Radio Canu, Lilith Martin et les autres. On vous fait un petit, comme une espèce de petit revue de livres. Et moi, je vais vous parler d'Une chambre à soi de Virginia Woolf, que je suis en train de lire en ce moment, de finir. C'est la première fois que je lis Virginia Woolf. Et je commence par un essai, en fait. C'est pas un roman. Elle a plutôt écrit des romans. Et en fait, elle répond à une question qu'elle se pose et qu'on lui a posée apparemment. C'est comme une espèce de demande aussi qui est venue de l'extérieur. C'est les femmes et le roman. Et donc, elle se pose la question assez naïvement au début. Mais en fait, elle n'est pas du tout naïve. Mais du coup, je pense qu'elle se plaît à jouer la naïve de « Mais oui, ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes qui écrivent et qui sont poètes et qui... Comment ça se fait que c'est les hommes qui écrivent plus ?» Alors elle entreprend des démarches d'aller dans les bibliothèques. Puis là, on lui dit « Ah, mais vous ne pouvez pas venir toute seule dans une bibliothèque, vous devez être accompagnée par un homme, tout ça. » Donc elle fait « Oh, bah ça alors !» Bon, voilà. Donc c'est assez drôle, parce qu'il y a un espèce de second degré, enfin, surtout au début. Puis ensuite, elle se met comme avec un œil complètement vierge de quoi que ce soit dans la bibliothèque à chercher des romans. Qu'est-ce qu'on dit sur les femmes? Qu'est-ce que les hommes disent sur les femmes? Et puis, elle se rend compte, comment ça se fait que c'est que les hommes qui parlent des femmes et jamais les femmes qui parlent des femmes? Et en plus, ça, c'est marrant, mais ils ont vraiment l'air en colère, les hommes, sur les femmes. Comment ça se fait qu'ils traitent toujours les femmes comme des êtres inférieurs, etc. Et puis, elle réfléchit beaucoup, et elle se rend compte que, enfin, pour elle, la femme, pour pouvoir écrire et pour pouvoir créer, en fait, elle a besoin d'avoir un lieu à elle, et d'où le titre Une chambre à soi, mais aussi des sous, quoi. Elle a besoin d'être sécurisée au niveau matériel et d'avoir un coin à elle, et que en fait elle se rend compte que la condition de la femme ne permet très peu, en tout cas à cette époque, elle a écrit ça en 1929, d'avoir un lieu à soi et du temps et du coup des sous pour elle, d'être autonome. Et en fait, elle relie ça à vraiment quelque chose de très matériel, de pouvoir créer, c'est ça. Et puis ensuite, elle réfléchit, elle commence à lire des livres de femmes, parce qu'en 1929, il y a quand même des livres qui ont été écrits par des femmes, et plutôt des fictions, et elle commence à lire ça, et elle se demande en quoi c'est d'écrire avec le fait d'être une femme, sans essayer d'imiter l'écriture d'un homme, quoi. En quoi... C'est quoi l'identité, en fait, littéraire d'une femme? Et elle se rend compte qu'il y en a très peu qui... Enfin, elle revient souvent sur Jane Eyre et Emily Brontë, etc. Mais elle se rend compte qu'il y a peu de femmes qui arrivent à être authentiques dans leur manière d'écrire sans essayer d'imiter les hommes. Voilà, en gros, l'histoire... Enfin, j'ai pas tout dit, mais c'est assez passionnant. Voilà, pour Virginia Woolf, Une chambre à soi.
Merci. Alors moi, j'avais envie de parler d'un livre d'une auteure que je connaissais comme chanteuse, Brigitte Fontaine. Donc j'ai découvert très récemment qu'elle était aussi... elle écrit du théâtre et elle écrit aussi des romans. Du coup, quand j'ai appris ça, je suis allée à la bibliothèque et j'ai trouvé un très beau roman d'elle qui s'appelle Travelling, qui est sorti en 2008, qui est un roman... Enfin, moi, je retrouve beaucoup dans son écriture ce qu'on retrouve dans sa musique en général, à la fois un truc un peu... En tout cas, ça c'est mon avis personnel, mais de quelque chose d'un peu mystérieux, un peu, je sais pas, surréel, et en même temps de très humain et surtout très sensible, un peu comme quand on la voit sur scène, en fait. Et donc du coup, j'avais juste envie de dire qu'elle écrivait aussi des romans, et notamment celui-là. Et puis juste pour vous donner une toute petite idée, j'avais envie de lire un tout petit extrait. C'est vraiment très court, mais pour avoir un peu une idée de le type d'écriture qu'elle a. Par moments, Judith file le parfait amour avec la mort. Une mer de sang vermeil et puis l'azur. La dérive totale dans l'inconnu absolu. Enfin, l'autre côté, l'aura resplendissante. L'anéantissement peut-être dans la lumière inimaginable. La grande folie furieuse, mais douce, douce à faire peur aux vivants. Voilà, et donc du coup, puisqu'on a parlé de Brigitte Fontaine, on va écouter un morceau d'elle.
Brigitte. Toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois, tu ne veux pas qu'on te voie.
léger. Toujours tu t'en vas chanter. Sur les toits, et tout le monde te voit. Pourquoi Brigitte?
C'était donc Brigitte Fontaine avec une chanson de, qui s'appelle Brigitte. Voilà, donc c'était un peu l'émission déprime de l'année. C'est normal, c'est bientôt le mois de novembre. Donc voilà, on est, la prochaine fois, on mettra peut-être de la musique parfois plus péchue. Mais c'est vrai que les thèmes n'étaient pas forcément les plus drôles aujourd'hui. Voilà, mais bon, on espère quand même que, notamment sur l'IVG, les luttes viendront et qu'elles paieront. Donc maintenant, c'est un peu c'est le petit point info avec une première info sur un événement qui se passe à Lyon à partir du 17 novembre. C'est le festival Briser le silence contre les violences conjugales qui se déroule du 17 au 26 novembre, qui est organisé par Filaction. Donc pendant lequel il y a des concerts, du théâtre, des conférences, des projections. Pour les informations, il suffit d'aller sur le site de Filaction, filaction.org, donc filaction.org, ou éventuellement, vous pouvez les appeler au 04 78 30 63 50. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives, ça peut être intéressant d'y participer.
Moi, je vous parle rapidement de deux petites dates, 20 novembre et 10 décembre. Alors le 20 novembre, c'est... Bon, on retombe dans les chrysanthèmes, mais non, parce que justement, bon, moi j'aime pas d'ailleurs ce mot, c'est le TIDOR, le jour du souvenir trans, hein, en français c'est un acronyme anglais, mais voilà, tous les ans, Chrysalide, association trans, fait quelque chose pour cette date. Cette année, c'est au cinéma Opéra, à 20h, donc le 20 novembre, projection du film L'Ordre des mots, qui est un très très bon film, hein, on le passe souvent, mais il est très bien, et voilà, ben voilà, venez, comme dit toujours, agresseuse et agresseur de trans, s'abstenir, voilà. La suite de ce que je disais tout à l'heure sur l'IVG, c'est qu'il va falloir quand même... C'était quand même un succès, il faut qu'on le fête, et le 10 décembre, donc, je pense que ça sera dans la soirée, j'ai pas encore l'heure, je pense que ça sera à 19h ou à 18h30, au Centre culturel de Villeurbanne, donc c'est à côté du métro Flachet, je me rappelle plus le numéro de l'avenue Émile Zola. J'aurai l'occasion de façon de vous en reparler. Et ben, on fait une soirée pour célébrer cette victoire et continuer de se bagarrer là-dessus.
Alors, moi, je voulais vous parler de la création d'un nouveau site internet. Donc, c'est un site internet qui s'appelle Son en lutte. Et en fait, c'est plein de radios qui ont envie de se faire circuler tout plein de reportages, plein de sons et qui le mettent à disposition, en fait. Donc il est tout nouveau, il vient d'être créé, donc il suffit de taper son en lutte sur Google et vous tombez dessus. Et donc en fait ça permet en fait de mutualiser plein d'informations de partout en France, et donc ça permet aussi d'avoir accès à peut-être des informations un peu différentes de celles auxquelles on a accès dans les médias traditionnels. Voilà, donc son en lutte.
Et toujours dans le domaine de la radio, nous voudrions faire une petite publicité pour nos amis de Grenoble qui ont monté une nouvelle émission qui s'appelle Calibre, en deux mots. Et c'est tous les jeudis de 21h à 22h, je crois, sur Radio Kaléidoscope à Grenoble. Et c'est une émission, en fait, c'est comme une libre antenne, vous savez, Doc et Difool. Bon, ben, en fait, c'est ça, mais c'est Difool qui répondent. C'est un petit peu plus engagé, un petit peu plus militant. Et en fait, on peut appeler voilà, pour parler de sexualité, raconter des choses, si on a envie de raconter des choses de notre vie, les problèmes de relations amoureuses, amitié, sexualité, contraception, etc. Et donc, elles prennent vraiment le temps de répondre et de discuter avec la personne dans l'optique de pas donner de réponse, qu'elles n'ont pas de réponse toute faite, mais de discuter, de poser des questions, voilà, de prendre le temps d'y réfléchir aussi. Et c'est vraiment chouette à écouter parce que ça s'écoute bien. C'est vraiment un temps qui est riche, quoi, un temps riche d'échanges. Et du coup, la dernière émission, c'était hier soir, je crois. Et on peut en écouter sur www.calibre. Alors, c'est en deux mots, C-A-S-libre avec un S, .poivron, comme le légume, .org.
Eh ben, merci beaucoup.